Bonjour. Alors, comme chaque mois, nous avons notre émission sur le théâtre pour essayer de convaincre les spectateurs de venir au théâtre, qui est l'art de l'avenir, hein, je le rappelle toujours, parce que maintenant avec l'IA, hein, le cinéma, la synchro, tout ça va disparaître, mais on aura toujours besoin du vivant. Et le vivant, ben, c'est le théâtre. Voilà. Un être vivant face à un autre être vivant, voilà, c'est ça qui est essentiel. Et il faut aller au théâtre. Alors, donc, cette émission est faite pour ça, pour essayer d'inciter à aller au théâtre, malgré, comme vous le savez, ma méchanceté de critique qui passe son temps à dire du mal des spectacles. Mais dire du mal des spectacles, c'est important parce qu'il est essentiel d'aller au théâtre, de voir des spectacles de théâtre qui sont bons. Parce que quand on va voir un spectacle qui est mauvais, on ne retourne plus au théâtre. Donc la critique, elle est essentielle pour ça. Là, je le rappelle toujours parce que c'est important. Alors aujourd'hui, j'ai deux invités, hein, qui sont en face de moi. Gianni Corvi, là, qui est le directeur de l'Auguste Théâtre, le directeur artistique de l'Auguste Théâtre.
Bonjour.
Voilà, il nous salue, il nous dit bonjour. Là, un homme poli. Et puis en face de moi, j'ai mon vieil ami Frédéric Sabrou, qui a un spectacle au théâtre Essayons, qui s'appelle Vincent, son mari et sa femme. Voilà. Si je me souviens bien du titre, qui est un peu compliqué. Alors on va parler théâtre, et on va parler surtout de l'Auguste Théâtre, parce que je crois qu'il y a quelques difficultés. Alors je rappelle que l'Auguste Théâtre est un très très joli petit lieu, qui appartient à quelqu'un que je connais bien et que vous, ici vous connaissez bien puisqu'elle est, elle a participé à plein d'émissions avec moi, qui est Marias, qui dirige, enfin qui est en fait la propriétaire de ce lieu et qui malheureusement n'a pas pu venir aujourd'hui. Je précise que Marias est une des plus grandes comédiennes que je connaisse, donc c'est important aussi de le dire. Alors, Jenny, qu'est-ce qui se passe avec l'Auguste Théâtre? Alors, tu nous as parlé parle-nous de la programmation, mais aussi de la situation.
Bah, la programmation, elle est très variée. Hein. Nous faisons à peu près 200 représentations et à peu près 30 compagnies. Donc, c'est très, 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 très varié, mais on essaie d'avoir de bonnes qualités de spectacle. Mais en termes de structure, comme l'Auguste, qui existe quand même depuis une quarantaine d'années, si Marie là depuis 10 ans à peu près, et qui en a fait vraiment une vraie coquille culturelle, avec beaucoup de charme, même avec un vrai contenu également, et qui a eu la gentillesse de me le confier à un moment donné, parce que d'abord je lui en avais parlé, c'était un peu le rêve de ma vie, hein,
de diriger un théâtre. Je peux comprendre ça.
et ça me passionnait, donc j'ai sauté sur l'occasion, et j'y suis depuis 5 ans à peu près, donc comme gérant directeur.
Voilà. Alors, ce que je peux te dire, c'est qu'elle est très contente de cette direction artistique. Je t'apprécie beaucoup.
C'est un travail en collaboration. Et on est dans la même lignée, dans l'esprit. Donc, c'est très bien comme ça. Ben, le problème, il est malheureusement assez simple. C'est qu'un théâtre, pour l'environnement, c'est une société, c'est une entreprise. Et nous sommes dans un local dont les murs ne nous appartiennent pas, même s'il est là depuis 40 ans.
Oui, parce qu'évidemment, elle est propriétaire du bail, pas des murs,
bien sûr. Voilà, propriétaire des bails. Et là, récemment...
Un promoteur, c'est ça.
Un marchand de biens.
C'est pas une insulte.
C'est emparé, non, c'est pas une insulte, chacun son métier. C'est acquis les murs de l'ensemble immobilier, parce que nous appartenons à un ensemble assez long, hein, il y a 750 mètres carrés, nous en occupions 200 à peu près. Alors, son idée, et bien sûr, son idée, c'est de nous voir disparaître pour construire autre chose. Quoi, on ne sait pas trop, parce qu'il n'a pas encore déposé de plan, mais de toute façon, il ne veut pas garder le théâtre tel qu'il est. Pour des raisons économiques, c'est pas ça. Bon, voilà.
Il faut rappeler que les théâtres ne sont pas rentables.
Bon, absolument.
Je veux dire que. On sait aujourd'hui que à plus de 3 comédiens dans un spectacle, n'est pas rentable. D'où les difficultés de ce métier.
Voilà.
Qui vont s'accentuer, puisque les subventions disparaissent de plus en plus.
Alors nous, nous n'avons aucune subvention.
Ouais.
C'est pour que les a refusés. Hein.
Je connais la musique.
Avant, nous arrivons à être à jour de tout. On est en règle de tout, mais ça ne suffit pas à notre propriétaire, qui est bien sûr... voit beaucoup plus grand en termes de rentabilité, ce qui est certain, ce qui est évident.
Oui, tu veux dire le promoteur, pas le propriétaire.
Le promoteur, oui. mais qui a acheté, qui est propriétaire.
Qui est maintenant propriétaire des
voilà. Et il a profité d'une situation Covid, retard, etc. Pour ne pas renouveler le bail, refuser de renouveler le bail, et de vouloir nous jeter, voilà. Mmh. Alors, procédure, etc., etc. Et nous avons perdu en appel parce que...
En appel, tu veux
dire ? Non, en première instance.
En première instance,
oui. Et nous allons faire appel. Mais bon, on ne sait pas trop ce qui va se passer. C'est le juge qui décidera. Bien sûr, on ne peut être que pessimiste devant... Si on regarde la rentabilité, on est comparé à surface... je dirais, libre-service genre Carrefour ou Franprix, nous sommes beaucoup moins rentables en tant que théâtre.
Hein. Bah, évidemment.
Voilà. Façon... Même si on paye le loyer. Et si on nous augmente le loyer, 80 places, comme tu disais tout à l'heure, même si nous remplissons pas mal, on a la chance d'avoir du monde, ça ne suffit pas pour augmenter le loyer, pour payer un loyer beaucoup plus élevé.
Bien sûr.
Voilà. Donc, nous avons fait appel à la mairie, nous avons fait appel à la mairie de Paris, à la mairie d'arrondissement, il y a eu les élections, tout ça. Ben, on se bat, mais on ne sait pas où on va aller.
Donc les politiques ont pris le dossier en main ou...
Oui, alors c'est très compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué, c'est assez simple, c'est que les politiques évitent de prendre les dossiers en main.
Oui.
C'est toujours une grosse épine du pied pour quelqu'un qui prend un théâtre en main. Alors nous sommes protégés, entre guillemets, par la loi.
Bah, normalement, oui, c'est ce qui me semble. Voilà. On ne peut pas, comme ça, faire disparaître un théâtre.
C'est interdit. Et là, nous avons le ministère de la Culture, nous a vraiment reconnu avec un papier comme quoi nous sommes protégés en tant que théâtre sur le lieu, en tant que ministère de la Culture.
Et ça n'a pas suffi aux juges
Ça n'a pas suffi. Ça n'a pas suffi, puisque il risque de se passer ce qui s'est passé pour les déchargeurs. Hein. Oui. C'est-à-dire... on renvoie les gens qui sont sur place, on augmente le prix du loyer, personne ne le prend, et on dit, bah oui, bah nous on veut bien, ça reste un théâtre, mais personne ne reprend le théâtre, évidemment, parce qu'à un certain prix, même si on aime beaucoup ça, on ne peut pas. Quoi.
Voilà. Oui, augmenter le loyer, bien sûr.
Voilà. Alors pour l'instant...
Parce que le loyer est de combien en ce moment, si c'est pas indiscret?
Non, c'est pas indiscret. Le loyer est assez bas, parce que le bail était acheté assez cher.
Oui. Hein.
Donc le loyer est de l'ordre de 5000 euros par mois.
Oui.
Pour un surface à Paris, c'est pour nous c'est cher, mais c'est pas cher.
Oui, enfin, ouais. C'est quand même cher.
Mais s'il le monte à 10 000, ce qui serait encore dans certaines normes au niveau du foncier parisien, le théâtre n'est plus viable.
Oui, enfin... Mon théâtre, moi j'ai un loyer de 10 000 euros, mais c'est trois fois plus grand aussi.
Voilà.
Donc c'est pour ça que...
c'est un problème de nous 80 places...
80 places, c'est absolument pas possible.
Voilà, c'est pas possible. Voilà, alors qui peut nous écouter? Alors l'idéal serait que la mairie préempte et nous le reloue à un prix décent.
Oui,
la mairie précédente n'a pas voulu.
Oui.
Et la nouvelle mairie... la dernière fois, nous venons de la redécouvrir, cette nouvelle mairie, parce que c'est un nouveau maire, il va réfléchir sur le dossier. Mais,
c'est le maire de c'est quel arrondissement?
11e,
c'est le maire du 11e. Je crois que c'est un type bien, je crois.
Mais ils sont tous des types bien. Ouais. Mais le problème, ils ont aussi des problèmes de budget et nous ne sommes pas prioritaires.
Mmh.
Voilà. Donc, je pense. Et en plus, légalement, je crois que la mairie d'arrondissement n'a pas vraiment les moyens de défendre un théâtre, ça dépend vraiment de la mairie de Paris. Mais il peut appuyer le dossier. Voilà.
D'accord. Mais à la mairie de Paris, la direction des affaires culturelles a changé, non? C'est plus cet auteur-là qui a été ministre de la Culture, qui s'occupe maintenant, c'est un ancien comédien, il me semble, non?
C'est ça.
Et tu as pris contact avec lui?
Encore de contact avec lui, parce que nous sommes pareils, nous avons commencé par... C'est tout nouveau, hein, le changement de mairie.
Oui, bien sûr,
donc. Donc je pense que le dossier va remonter petit à petit.
Je peux te dire par expérience que si on ne leur donne pas des coups de pied dans les fesses, ça ne marche pas.
Ben on essaie. Donc, on le fait. Et puis,
Non, parce que c'est quand même fondamental qu'un théâtre ne disparaisse pas à Paris. Alors Paris, il faut le rappeler à nos éditeurs, Paris est la ville du monde où il y a le plus de théâtres. Mais c'est une richesse absolument incroyable.
Hein.
D'autant ce que je disais tout à l'heure, c'est que le théâtre, c'est vraiment l'art de l'avenir. Mmh. On va en avoir de plus en plus besoin de ce vivant. Donc faire disparaître un théâtre, c'est comme tuer quelqu'un, c'est comme c'est extrêmement grave.
C'est tuer le quartier où nous sommes. Nous avons tous les commerçants, pour ne pas les restaurants, les bars,
bien sûr.
Ne vivent pas qu'avec l'Auguste, mais en grande partie aussi à cause des spectateurs qui viennent, qui vont boire un verre, qui vont déjeuner, dîner. Ça fait vivre le quartier. C'est un quartier
artisanal. C'est un quartier populaire.
C'est un quartier populaire. Nous sommes là-haut à côté de Philippe Auguste, donc c'est vraiment le quartier populaire artisanal, classé artisanal normalement. C'est vrai que ça n'est pas un quartier. C'est pas le centre Bastille où on sort,
mais
on vient parce qu'on est bien.
Tu veux dire que c'est pas encore bobo, quoi,
c'est
ça que tu veux dire.
C'est pas encore bobo, mais ça va te le dire. Mais c'est pas encore bobo complètement, voilà.
Ouais. Et donc la programmation, tu l'as fait comment, avec des gens qui te proposent j'imagine que tu loues les salles comme...
Je suis obligé, bien sûr.
Bien. Parce que on n'est pas tous obligés.
Moi je suis obligé de passer par là, donc...
Voilà. Donc, aujourd'hui, les théâtres, j'explique aux auditeurs, il y a trois formes de théâtre. Hein. Il y a les théâtres qui sont subventionnés, genre Comédie Française, etc., qui sont subventionnés directement. Ensuite, il y a les théâtres qui sont subventionnés, mais indirectement, comme les théâtres qui font partie du fonds de soutien, c'est-à-dire les théâtres privés, mais qui sont subventionnés par le fonds de soutien, c'est-à-dire qui est une caisse d'assurance qui est subventionnée par la ville et par l'État. C'est comme ça qu'il y a aussi peu de grands théâtres qui disparaissent. Et puis, il y a une troisième forme de théâtre qui est assez majoritaire, et qui sont tous les petits théâtres qui ne sont pas subventionnés, mais qui louent les salles et qui essayent et qui vivent comme ça. Alors, c'est plus ou moins, les locations sont plus ou moins décentes. Je pense que chez toi, ça doit être très décent. Mais...
Oui, c'est pour ça que nous avons beaucoup de demandes. On reste, parce qu'on travaille principalement avec des troupes émergentes. Avec des troupes émergentes, des compagnies qui font de la création.
Oui.
Nous n'avons pas de spectacles qui tiennent un an ou six mois. Les troupes font de la création et sont bien chez nous parce qu'il y a une belle scène et on leur laisse le temps de s'installer puisqu'on ne faisant qu'un spectacle par soir, donc c'est du luxe dans le cadre parisien.
Bien sûr.
Les troupes se permettent des fois des décors, c'est intéressant. Et on présente à un public toujours un très bon spectacle. Pas toujours facile.
Non, mais ça, ensuite.
Avec un contenu qui convient. Mais ça, c'est le propre du spectacle, qui plaît ou qui ne plaît pas. Enfin, qui touche ou qui ne touche pas. Mais c'est toujours du bon travail. Alors, ça va du classique, on fait des Molières, mais on fait aussi des créations plus difficiles, avec des thèmes. Comme sur les Blancs ou sur les transhumains. Jeanne et les transhumains qui a eu un succès colossal, qui est une pièce justement.
J'ai pas entendu ce que tu disais.
Jeanne et les transhumains.
Ah oui, d'accord.
C'est sur le transhumanisme, une allégorie avec un thème, avec Jeanne d'Arc. Qui est une jeune vendeuse de supermarché.
Ne touche pas à Jeanne d'Arc, s'il te plaît.
Non, ne touche pas à Jeanne d'Arc.
Non, je plaisante.
La pièce est extraordinaire. Et qui a eu aussi énorme. Donc, ça va vraiment, ça partage.
Oui, d'accord,
on partage vraiment des idées, contemporaines, variées. Et donc, nous avons vraiment, on marche bien. Le public vient, il est content, il revient.
Alors Frédéric, toi tu es aussi dans un théâtre privé, hein, puisque donc tu n'en es pas le directeur. Le directeur, je l'ai vu hier puisqu'on avait la première de ma pièce là-bas à Essayon. Donc lui, c'est un Québécois.
Très sympathique.
Adorable, très sympathique, qui fait aussi...
Michel Laliberté.
Michel Laliberté, qui fait aussi une belle programmation.
Oui.
Et donc toi, tu joues ta pièce, que tu mets en scène avec trois comédiens.
Oui, c'est une pièce...
Et là aussi, tu loues la salle.
Oui, c'est ça.
Voilà.
On appelle ça un minimum garanti, c'est-à-dire que...
C'est un mot pudique pour dire qu'on loue les salles.
Michel fait des prix assez raisonnables comparé à d'autres salles qu'on a.
D'autres salles de théâtre.
Ouais. Non, ça va.
Mais alors il y a deux salles au Théâtre Essayon.
Voilà.
Hein, tu joues dans la grande.
La grande. C'est pas immense, mais c'est une salle qui peut contenir 100 spectateurs normalement.
Ouais.
et qui est très, c'est des très belles salles voûtées
oui, c'est
du
très
XVIIe
beau,
siècle, c'est magnifique.
On, oui. peut, on peut y aller rien que pour le plaisir.
C'est très bien placé dans Paris, puisque quand...
C'est en face de Beaubourg, en voilà, face des tuyaux.
Côté tuyau, voilà, côté tuyau, et cette petite ruelle avec ce
on
théâtre.
On vous donne un tuyau en face de tuyau, voilà, un tuyau d'aller voir les spectacles.
Et c'est un théâtre qui a une histoire, puisqu'il a été dirigé pendant très longtemps par Valverde, et que c'était le théâtre des auteurs vivants. Et quand j'y allais, moi je rêvais, je voyais la liste des auteurs, Victor Heim et tout ça, et je rêvais d'avoir mon nom dans la liste, et puis voilà, ça s'est fait, j'ai déjà eu au moins trois spectacles qui ont été joués là-bas.
C'est l'occasion de rendre hommage à José Valverde qui est mort il y a quoi, il y a 3-4 ans. Mm. Moi, j'avais une certaine tendresse pour lui parce que j'avais monté une pièce à l'église Saint-Méry, juste à côté. Puis il était venu, mais j'avais 20 ans, 22. Et puis il était venu, il avait vu ce spectacle. Et à la sortie, il me voit parce que j'étais à côté. Puis il me dit, monsieur, je n'aimerais bien parler, monsieur Jenner. J'ai dit, bah, c'est moi, ça tombe bien. Et il me dit, ah ben monsieur, je sors de votre spectacle, vous pouvez venir monter ce que vous voulez, quand vous voulez dans mon théâtre. Au revoir monsieur. Bon, j'ai monté plein de spectacles au Théâtre Essayon, donc j'ai... j'ai une certaine amitié, une tendresse. C'est rare aujourd'hui les directeurs de théâtre qui font ça.
Oui, c'est sûr.
Donc ta pièce alors.
Ma pièce, j'écris principalement des comédies depuis très longtemps.
Alors là, on va le dire, on va le rappeler à nos auditeurs que la pièce qui a le mieux marché, qui était absolument excellente, qui s'appelait Danger Public.
Danger Public, on avait monté, oui. Ça, en 2005, on l'a monté à Essaillon, enfin déjà au Théâtre du Nord-Ouest. Grâce
en général, tout commence par
voilà,
là.
Grâce à toi, on a monté au Théâtre du Nord-Ouest. Après, c'est allé à Essaillon et ensuite, on a fini au Lucernaire. On l'a joué 300 fois. Ça a très, très bien marché.
Il faut dire que la pièce était excellente. Ouais, c'était de fleurs.
Voilà. Il n'y a pas de bonne pièce sans une bonne idée de situation. Là, je ne sais pas comment j'ai trouvé ça, mais c'était très bien. C'était une troupe qui n'a jamais personne dans la salle et qui se met à avoir beaucoup de réservations, 450. Et jusqu'au moment où ils se rendent compte qu'ils ont été recommandés...
Par des lecteurs de
par le Front National, voilà.
De Radio Courtoisie.
Et donc, ils s'interrogent en coulisses pour savoir si ils vont jouer ou pas. Donc, il y a tous les points de vue. Voilà, ça faisait écho à beaucoup de... Et ça fait toujours écho à des interrogations...
Bien sûr.
Des comédiens dans beaucoup de situations, voilà.
Je ne dirais pas qui, mais il y a un directeur de théâtre l'autre jour qui m'a dit... je voulais programmer un texte de Céline et le régisseur m'a dit si tu programmes ce texte de Céline, je donne ma démission. Alors, la bêtise est partout. Aujourd'hui même, on ne peut plus lire Dostoïevski à cause de la guerre en Ukraine. Donc, on arrive à la sottise la plus totale.
Alors oui, mon credo depuis que 40 ans que je fais ça, j'écris pas que des pièces, j'ai beaucoup
vécu. Je croyais que t'étais beaucoup, beaucoup plus jeune que moi, 40 ans déjà, mon Dieu.
Ça fait, oui, ça fait 44 ans que je suis dans le métier. J'ai beaucoup, beaucoup écrit, disons 80% pour la télévision. Ça m'a appris énormément d'écrire des scénarios, ça m'a appris à structurer, puis ça m'a appris à aller vers des faits de société, on fait beaucoup ça à la télévision, et ça a un peu déteint sur mon écriture au théâtre petit à petit. C'est comme ça que j'en suis arrivé à un certain nombre de pièces, avec des sujets qui parfois grattouillent un peu.
Ça, c'est bien.
Et donc j'aime bien voilà faire des comédies avec du fond, que mes personnages soient aux prises avec des...
On va parler plus précisément de ta pièce, mais vous vous connaissiez pas?
Mais on a fait connaissance autour d'un café tout à l'heure.
Ah bon, voilà. Très bien, autour d'un café, parfait, voilà. Parce que dans ce métier, en général, les gens sont assez proches.
Enfin, oui, mais c'était jamais rencontré, oui.
Et alors, est-ce que tu aurais pris dans ton théâtre un auteur comme ça
Oui, bien sûr. C'est le genre d'auteur, le genre de pièce que nous aimons programmer, c'est certain. On aime beaucoup ça, on aime beaucoup ce qui est création.
Ah oui.
Et si en plus ça touche un peu, enfin, d'après ce que je vois sur le titre, le social, enfin, l'événement social, bien sûr, c'est notre type de programmation. Oui.
Ah oui. Parce que c'est de plus en plus difficile pour les auteurs. On en arrive même à ce que les directeurs de théâtre ne lisent plus les pièces, tellement peur d'être content de la pièce, en disant ça va être très bien, mais comme il n'y a pas de vedette, il n'y a pas d'argent, je vais perdre de l'argent, donc je préfère ne pas la lire. On arrive à ce type de raisonnement-là, hein. C'est extraordinaire, c'est très très compliqué. Toi, je crois que tu as eu plusieurs spectacles, des pièces qui devaient se monter, qui au dernier moment n'ont pas...
Oui, on a fait des lectures, oui, j'ai des projets plus importants, on a fait des lectures, on n'a pas eu les producteurs ne sont pas venus, ou très peu, ou bien s'ils sont venus, ils n'ont pas retenu, parce qu'effectivement, une pièce avec un auteur inconnu, des comédiens inconnus, même s'il y a une thématique, s'il n'y a rien d'identifiant sur l'affiche, je me rends compte de ça de plus en plus, c'est des pièces à référence, moi, je dis, c'est sur l'affiche, on voit que ça va concerner un personnage historique, un auteur... et d'un seul coup, les gens ont une référence. Et s'il n'y a pas ça, ou s'il n'y a pas un comédien connu, ou un metteur en scène connu, déjà, les journalistes ne vont même pas venir, sauf Jean-Luc Génère, qui est un journaliste curieux de tout. Mais les journalistes, on a eu beaucoup de mal là, sur la dernière pièce. J'ai une attachée de presse qui n'a pas réussi à faire venir des journalistes de la presse papier, mais on a eu beaucoup de webzines, comme on dit. Mais ils se déplacent pas s'il y a pas ces références, ces choses qui font que tout le monde va aller voir ces pièces-là, et c'est dommage parce que notre rôle aussi c'est d'essayer de découvrir, de d'écrire, de proposer.
Je crois même que tu m'avais dit un jour qu'il y avait un producteur qui voulait bien produire à condition que la comédienne que tu avais choisie, Isabelle Etier, à condition de la changer, de lui mettre une vedette à la place, quoi.
Oui, ça c'est.
C'est quand même assez scandaleux. Enfin, déjà sur le plan humain.
Oui. Bah, du coup, cette pièce-là qui devait se jouer au Petit Théâtre de Paris, on a lâché l'affaire et finalement.
Elle a assez dans tes tiroirs.
Non, pas du tout. C'est Armand Éloi qui l'a montée. On a fait deux Avignons avec, ça s'appelait Seuil de tolérance.
Ah oui, d'accord. Bah oui, je l'avais vu. Oui.
Une pièce sur un couple de bobos, un télo, qui en déperdition depuis que leur fils est parti aux États-Unis. Ils sont tout perdus. Ils font venir une étudiante italienne pendant une semaine et manque de bol. L'organisme leur envoie un jeune musulman qui vient de Bruxelles et qui est parfaitement inquiétant. Enfin, c'est pour dire ces genres de thématiques que j'aime bien. Ça a très bien marché à Avignon. Donc, au bout d'un moment, moi je reprends mes billes parce que voilà. Alors ça, Vincent, son
mari. Alors voilà, on va parler un petit peu de ta pièce. Ben. Alors donc, qu'est-ce que ça raconte avec ce titre ambigu,
ambigu. Donc voilà, c'est une pièce que j'ai décidé de la monter moi-même. Ça m'est déjà arrivé de faire des mises en scène, mais là, trois comédiens, je fais la mise en scène, j'ai fait les musiques, je produis, j'écris le texte bien entendu, et ça se passe très très bien humainement, c'est vraiment une vraie merveille. Alors Vincent, son mari et sa femme. C'est un titre un petit peu intriguant.
ambigu,
voilà. Il s'agit dont Vincent est un... Vincent habite avec Grégoire et Betty depuis 35 ans et il passe de la chambre de l'un à la chambre de l'autre, d'accord, selon les jours pairs ou impairs.
C'est une partie à trois, quoi.
C'est voilà. Mais sauf que les deux, Betty est hétérosexuel et Grégoire est seulement homosexuel. Donc il n'y a pas de relation entre eux.
D'accord.
Juste une rivalité, une espèce de vieille rivalité assez amusante. C'est ça qui m'a intéressé dans cette pièce. Parce que j'ai beaucoup traité des triangles amoureux sous toutes les formes, que ce soit dans les scénarios, les sitcoms, les machins. On a vu ça des milliers de fois au cinéma. Et là, ce qui était intéressant, parce que ce qui va se passer, c'est que Vincent les trompe. J'oubliais ce détail important. Vincent les trompe.
C'est pas bien.
Au bout de 35 ans,
en tant que catholique,
de cet équilibre, Vincent va avoir un jeune homme, tenté par la jeunesse. Et donc, ces deux personnages vont vivre une jalousie à deux. Et c'est ça qui m'a déclenché la pièce. Je me suis dit, mais toutes ces choses qu'on pense et qu'on vit tout seul quand on, ça arrive à beaucoup d'entre nous de se retrouver, avec la personne qu'on aime qui va avec quelqu'un d'autre. Alors comment est-ce qu'on le vit, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que ça sert à quelque chose d'essayer de faire quelque chose, enfin, et toutes ces interrogations, je me suis dit ça serait assez sympa de faire ça avec ces deux personnages qui vont essayer de tout faire pour récupérer l'homme de leur vie, Vincent, qui leur échappe et qui est en train de sombrer dans un espèce de jeunisme pathétique avec ce garçon qui a 20 ans de moins. Et voilà, c'était tout le moteur de la pièce. Et ça fonctionne. À l'écriture, ça fonctionnait déjà bien jusqu'au bout. Et je me suis dit, déjà à l'écriture, j'avais un petit peu induit beaucoup la mise en scène, puisque tout se fait par des évocations. Les personnages font des face publique, ils disent alors à ce moment-là, je suis allé je suis allé dans la crèmerie et là j'ai rencontré Hubert, et ensuite ils se retournent vers Hubert, et voilà, c'est tout le principe de la pièce avec des espèces de face caméra, on va dire, et puis ensuite ils rentrent dans le jeu entre eux. Et donc la mise en scène était vraiment induite dès l'écriture, et après ça a été assez facile, j'avais tout dans la tête avec mes trois comédiens qui sont des comédiens remarquables. Je ne sais pas si le critique va être d'accord avec moi.
Non, je suis tout à fait d'accord. C'est trois excellents comédiens.
C'est trois pointures, et là, je dois dire que c'est un régal.
Ah, tu peux les citer peut-être, je ne sais jamais.
Je vais les citer, oui. Alors, il y a Pascal Ruiz, Jean Grimaud et Isabelle Etier.
Voilà, dont on parlait tout à l'heure.
Voilà, et donc ils sont rentrés dedans. Et donc, oui, c'est un régal pour un auteur, quand on a écrit un texte, et puis de voir immédiatement c'est ce que ça donne, c'est magnifique. C'est au niveau de la direction d'acteurs, j'ai vraiment pas grand chose à faire, parce que ils savent. J'ai juste, on règle les potards, les entrées, les sorties, les relations, il y a plein de petites choses à ajuster, évidemment.
Il suffit pas de savoir, hein, quand on est comédien.
C'est un autre problème.
Ce qu'il faut dire à nos éditeurs, c'est que la qualité de ta plume, c'est l'humour, c'est la légèreté, c'est l'intelligence subtile, la connaissance psychologique, c'est tout ça qui fait le charme et la spécificité de ton écriture. C'est toujours très très amusant. Les spectacles sont toujours, c'est toujours traité, parce que avec un sujet comme ça, on pourrait se dire oh là là, on est en pleine homosexualité, ça va être une horreur. Ouais, mais pas du tout. Tout ça, c'est léger, rien n'est lourd dans ce que tu fais.
En plus, le thème de l'homosexualité, enfin, c'est que ce que je disais, c'est que c'est pas ça que je traite dans la pièce. Le fait que ce soit une sorte de trouble, c'est une chose acquise et qui ne pose pas de problème. Ils n'ont pas à se justifier, ils sont pas porte-à-faux.
On est dans le monde d'aujourd'hui. Tu es un garçon d'aujourd'hui. Contrairement à moi, qui suis un vieux réac, tu es dans le monde, toi.
Non, mais on peut écrire une pièce où ce trouble va être en conflit avec son environnement, etc. Mais c'est pas ça qui m'intéressait, c'est ce que je disais.
Oui, j'ai bien compris, oui.
C'est le arc sentimental pendant toute la pièce. Qu'est-ce qui va se passer entre eux? C'est surtout ça qui m'intéressait. Bon. Une histoire sous un angle plus original. Voilà.
Alors, est-ce que ça te donnerait envie d'aller voir le spectacle?
Absolument.
Bon. Oui, il est gentil, hein, quand même.
Oui, tu es invité quand tu veux.
Non, je paye ma place. J'y tiens, parce que je sais que c'est pas principe. Je crois que je suis invité, mais j'aime bien dire, j'ai fait moi aussi acte de payer ma place. Voilà. Ouais. Quand je suis invité, même chez des amis, et je demande la même chose, alors je suis exigeant. C'est vrai que c'est pas dans les habitudes, mais on a tous besoin, il faut que ça roule.
C'est compliqué, cette affaire de payer sa place quand on fait partie du métier, parce que, par exemple, quand les critiques, à un moment donné, on a voulu faire payer les critiques de théâtre, mais c'est une absurdité complète. Ouais. Parce que les journaux, ils vont pas rembourser les spectacles. Ils vont rembourser, si on va à la Comédie Française, ils peuvent rembourser une fois, etc., de temps en temps. Mais résultat des courses, avec des idées aussi absurdes que ça, eh bien, les gens n'allaient plus, on ne serait plus allé au théâtre voir des spectacles dans des petits théâtres, dans les petits lieux. Voilà l'absurdité des choses. C'est notre métier. Quand on va au théâtre tous les soirs, ou très peu, on peut pas, c'est normal d'être invité, ça fait partie des choses, voilà. Oui. Maintenant, moi je sais, quand je suis critique, il y a une règle, on est invité à deux personnes, et puis quand je vais, ça m'arrive une troisième personne, là je paie ma place, c'est logique. Quand je n'y vais pas comme critique, je paie ma place. Oui. Ce qui est très très rare. Mais voilà, bon, mais c'est important de payer sa place parce que c'est même chez les amis, parce que c'est un peu comme Charon qui pour passer le stick, c'est l'obol qui fait qu'on se met, que le spectateur se met en disponibilité d'écoute, tout simplement. Ouais. Alors que sinon, bon, moi, c'est un truc de plus. Les places gratuites au théâtre, ça devient extrêmement grave. On les donne à n'importe qui, n'importe comment. On vous invite, on lance un spectacle en invitant 15, 20, 50 personnes pour remplir la salle, pour pas que les comédiens se retrouvent devant là, en se disant bah, peut-être qu'après ça, il va y avoir un bouche-à-oreille qui va se faire. Tout ça, moi, je suis au Théâtre du Noir, j'interdis tout ça. Je ne veux pas que les gens rentrent gratuitement au théâtre, sauf comme c'est leur métier. Metteur en scène, directeur de théâtre, critique, producteur, c'est tout à fait légitime c'est notre métier d'être invité, puisqu'on vient faire son travail, quoi.
Oui, non, mais moi je suis pas dans la position de critique.
Ah, mais t'es directeur de théâtre quand même.
Oui, je suis directeur de théâtre, mais bon, c'est différent. Ah,
jusqu'à présent. J'espère que ça va durer.
Non, mais quand je vais voir une pièce en vue d'une relation, je dirais après de diffusion, c'est différent. Mais quand on m'invite, quand j'ai quand même beaucoup d'amis, je sais ce que c'est que de monter une pièce. C'est pas facile économiquement et même. Bon, et puis quand on peut, on fait un geste. Bon, on aura un peu de réduction, peut-être des choses comme ça. Il faut faire un geste. Mais comme tu disais, il y a des entreprises maintenant, c'est une organisation de donner des places gratuites. Donc, on remplit une salle avec des places gratuites. Et alors, il y a 5 personnes sur scène, il y a un régisseur, il y a les lieux. Je pense qu'il faut.
C'est un calcul financier, mais qui est idiot. Et puis surtout, qui donne l'habitude aux gens de ne pas payer leur place. Voilà, c'est ça le problème.
Mais je me suis trouvé dans une situation, au cours d'un festival d'été, par exemple, où on avait des spectateurs qui étaient invités au chapeau. Et la famille allait payer des glaces à 5 euros la boule de glace. Ils en prenaient 4 ou 5 dans la journée à 2 ou 3 personnes. Et quand ils venaient au chapeau à 4 ou 5 dans la salle, ils mettaient, si tout va bien, 5 euros pour toute la famille. Bon, on n'allait pas leur courir après. Mais le rapport, enfin, c'est un problème. Je pense que c'est un manque de respect, quelque part. Maintenant, c'est vrai, bon, il y a des cas, c'est évident. Mais il faut respecter le travail, je crois, un petit peu des autres. C'est un travail aussi.
Mais souvent, ce sont les comédiens eux-mêmes qui ne respectent pas les...
Oui.
Par exemple, j'étais avant-hier au Poche Montparnasse. Je suis allé voir Barrage contre le Pacifique, qui est pas mal du tout, d'ailleurs. Et il y avait Anne Consigny qui était là, qui joue. C'est elle qui joue. Et je rentre et puis je vois une femme qui est en train de parler individuellement à chaque spectateur. Et elle leur parlait avant que le spectacle commence. Et elle les remerciait individuellement d'être venue. Alors, donc j'ai compris assez vite que c'était Anne Consigny elle-même qui avant le spectacle. Bon. Puis alors, à un moment donné, elle vient vers moi pour faire pareil. Elle ne savait pas qui j'étais. Elle ne le sait toujours pas, d'ailleurs. Et elle me serre la main, comme ça, en disant « Merci, monsieur, d'être venu. » Voilà. Alors je l'ai arrêté, je lui ai dit, mais enfin, qu'est-ce que vous racontez là? C'est pas à vous de me remercier, c'est à moi de vous remercier. Alors elle me dit, oui, mais vous n'avez pas encore vu le spectacle. Je lui ai dit, mais attendez, le problème n'est pas là. Elle me dit, mais vous vous rendez compte, vous vous êtes déplacé. Oui, je me suis déplacé. Alors puis je lui dis, mais vous savez, quand je lis Dostoïevski, c'est pas Dostoïevski qui va me remercier, hein, c'est moi qui remercie Dostoïevski ou les grands auteurs.
Absolument.
Donc il faut la dignité de notre métier, c'est ça. Remercier, comme on le retrouve de plus en plus dans les théâtres, je vous remercie d'être venu. Non, on ne vous remercie pas d'être venu. C'est nous qui remercions les comédiens d'incarner de voir un des beaux spectacles, d'être transformés, c'est ça. C'est comme leur fameux machin, maintenant on ne peut plus aller au théâtre sans qu'à la fin on vous dise si vous avez aimé ce spectacle, parlez-en à vos amis, si vous ne l'avez pas aimé, parlez-en à vos ennemis. Enfin, tous ces trucs-là, où on est en face de petits marchands de soupe qui tuent la dignité de notre métier. C'est très grave, c'est très très grave.
Je suis parfaitement d'accord, j'adhère complètement, et justement c'est ce qu'on évite de faire, enfin on le fait maintenant. Bon, y a les troupes, qui viennent à l'Auguste, quelques-unes le font, et forcément.
Moi, je leur interdis. Hein. Alors là, moi, là-dessus, c'est interdiction.
Dieu sait si je suis pas... avec les compagnies, bien que j'étais un peu à ton école, faut quand même l'avouer. Mais j'ai beaucoup de comédiens qui sont chez moi, c'est parce que je vais faire mon casting chez toi, dans ton théâtre. Bon, on va se dire... je pense qu'effectivement, le spectateur, il a un plaisir. Il y a un plaisir de sortir, il y a un plaisir de...
Ben bien sûr.
Et ce plaisir, quand il va prendre une bière, il la paye, sa bière. le barman ou le patron du café, il ne le remercie pas d'être venu prendre...
C'est exactement
nous,
ça.
On offre un très joli travail. Enfin, bien sûr. Un travail colossal. Après, on aime ou on n'aime pas, mais le travail, il est là, il y a du cœur. Ça n'existe pas, quelqu'un qui monte une pièce sans cœur. C'est tellement compliqué que si on n'a pas de cœur, on le fait pas. Et donc, on offre ça. Et après, en plus, il faut remercier les gens. Je pense que ça s'est un peu trop installé, cette mentalité.
Oui, mais c'est très grave.
C'est assez grave de ne pas... De pas payer le plaisir qu'on obtient en allant voir une pièce. Voilà.
C'est symbolique, évidemment.
C'est symbolique.
Parce qu'il y a l'autre problème, évidemment, c'est le prix des places. Parce que quand tu vas voir, moi je vois des pièces qui durent, je sais pas, une heure et un quart dans des théâtres que je ne citerai pas, qui durent une heure et un quart, où on paie 60, 70 euros la place. Bon, ben, les gens, on y vient à deux, à trois, ils reviennent plus au théâtre pendant 20 ans, quoi. Si la pièce, en plus, est mauvaise, c'est extrêmement grave. Ouais. Le prix des places dans certains théâtres, ça va pas, quoi. Hein. Donc, là aussi, il y a un problème. Alors, je parle pas, en plus, des grands théâtres subventionnés qui font payer des places aussi très chères. Parce qu'on en arrive à un paradoxe, c'est que les théâtres subventionnés, eux, n'ont pas le droit de passer par les sites de réservation de places comme Bièreduc ou autres. Et résultat des courses, comme Bièreduc, maintenant, dans tous les théâtres privés, c'est ce qui fait la majorité des ventes, donc à des places réduites, eh bien, paradoxalement, on arrive à payer plus cher dans les théâtres publics que dans les théâtres privés, à cause de ce système. On arrive à une chose de complètement folle.
Absolument. Le spectateur paye deux fois, une fois avec ses impôts.
une fois avec ses impôts et une fois avec le... Voilà.
Oui, malheureusement, c'est un peu trop installé. Bon, ben, est-ce qu'on va arriver à faire changer ça petit à petit? Je ne sais pas. Mais il faut parvenir, il faut peut-être expliquer. Mais si on explique trop... On casse la magie aussi du théâtre. C'est un peu le prestidigitateur qui montre son coup. C'est magique tant qu'on ne sait pas ce qui se passe derrière. Une fois qu'on connaît le coup, c'est déjà moins magique. Il faut que le spectacle reste aussi magique. Donc on ne peut pas toujours, malheureusement, enfin on ne peut pas que parler d'argent.
Bah bien sûr.
Même si c'est notre.
Mais l'argent est symbolique. C'est pas une affaire de voilà.
C'est symbolique. Et voilà. Et puis bon, on est dans ce métier. On sait ce qu'on risque, on l'a choisi aussi. Ça fait 50 ans aussi. Je ne suis pas Pierre Drou de la veille. Mais donc, on a choisi de vivre comme ça. On n'est pas. Bon, on le sait, mais en même temps, mais minimum, bon, soyez raisonnable. voilà. Quand on voit le prix. Même quand on compare le prix d'une place de cinéma, où c'est un écran, j'adore le cinéma depuis tout le temps. Et lorsqu'on vient dans une salle où il y a 9 personnes sur scène, c'est évident que il faut les régler un petit peu, l'infrastructure, la lumière, l'électricité, tout ce qu'on veut. Enfin,
mais c'est de plus en plus rare, hein, 9 comédiens sur scène, il n'y a pas de rentabilité.
Il faut aller au Nord-Ouest ou à l'Augustéâtre.
Ah oui, parce que là encore, pour nos auditeurs, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a beaucoup de spectacles qui se font à Paris avec 6, 7, 8 comédiens, mais on se dit, mais comment ils font pour payer ça? Mais jusqu'à présent, eh bien, ils se remboursaient, entre guillemets, par des tournées, Paris faisait un peu comme Avignon, c'est-à-dire que c'était un lieu de création, en se disant, bon, on va perdre de l'argent là, mais grâce aux tournées, on va pouvoir rembourser. Le problème, c'est que les tournées, il y en a de moins en moins. Parce que les municipalités qui finançaient les spectacles ont de moins en moins d'argent, donc il y a de moins en moins de tournées, donc de moins en moins de possibilités. Donc ça va devenir vraiment de plus en plus. C'est-à-dire que tout ce qui était subvention indirecte, parce qu'on parle des subventions directes qui diminuent, mais toutes les subventions indirectes aussi diminuent. Ouais. Et c'est là où ça devient extrêmement difficile pour les gens de notre métier.
Oui, mais de toute façon, on est devant vraiment des aberrations complètes. Tu parlais des théâtres même régionaux. C'est vrai qu'à la fin, les municipalités arrivent à avoir des frais sur une salle qui est une coquille vide parce qu'ils n'ont pas les moyens de mettre quelque chose dans leur propre salle. Or, la salle vide, bah, coûte cher, mais ils n'ont pas les moyens d'inviter une troupe.
C'est tout le problème du structurel, c'est-à-dire que les subventions sont données pour le structurel, c'est-à-dire qu'on paie un administrateur, un directeur, des gens, des caissiers, etc., puis on ne met rien dedans. Les théâtres en province sont très souvent très vides, quoi. Voilà. Et c'est vraiment une vraie cas. Très souvent, il y a des exceptions, évidemment, mais c'est aussi un gros problème. Parce que toi, par exemple, une pièce comme celle-ci, tu peux essayer de la tourner ou
Moi j'aimerais bien, mais il faut faire venir, ces gens-là. Mais ou bien on monte la pièce à Avignon et il faut quelqu'un qui s'en occupe, quelqu'un qu'on va payer d'ailleurs. Il faut sur ceux de tolérance, on avait quelqu'un qu'on a payé pour faire venir ces acheteurs. Ils sont venus, on l'a vendu pas beaucoup, 7-8 fois, un spectacle qui marchait bien pourtant. Oui. À Paris, ils viennent pas. Moi, j'ai jamais eu un programmateur, un tourneur. Je peux faire venir un tourneur, mais ils me disent c'est pas l'époque, ou c'est pas le bon moment, ou tiens, il va y avoir Avignon, ou bien alors il faut payer en plus le mec, sachant que il faudrait payer un attaché de presse, il faut payer ceci, il faut payer cela. Il reste non seulement il reste rien, mais on creuse dans le rouge là.
Une entreprise comme celle-ci, à la fin, tu perds de l'argent.
Ah oui, bien sûr. Ouais.
Ah oui, faut le dire, quoi. C'est important.
Ah, je perds de l'argent. Heureusement, j'ai mes droits d'auteur de télévision qui me permettent de nourrir
souvent,
ça. Mais sinon,
quand il n'y a pas de subvention, c'est soit des gens qui font de la synchro et qui mettent des comédiens passionnés et qui mettent leur argent, soit par la télévision, soit etc. Et c'est comme ça que, ou quelquefois, des papas riches, ça peut arriver aussi, ou des mamans riches. Bon, mais c'est comme ça que c'est produit. Mais ça n'est plus il y a pas de rentabilité. Pas de rentabilité. Et il faut vraiment le dire et le redire. Et là encore, parce qu'il y a toute une espèce d'attaque aujourd'hui, on se dit, voilà, il y a trop de subventions, il y a trop de... Mais s'il n'y avait pas eu ces subventions-là, le théâtre, en France, il serait comme dans les pays étrangers, il aurait complètement disparu. Le problème n'est pas les subventions, le problème c'est... Qu'est-ce qu'on fait de ces subventions? Absolument. Et à qui on les donne? c'est ça les vraies questions. Mais les subventions sont absolument nécessaires si on veut avoir autre chose que, je le répète à chaque émission, que les 150 one-man show qu'il y a à Paris en ce moment. Ouais. Et quand je dis 150, on serait près plus proche de 200, ouais. si on compte les cafés-théâtres. Bah ouais, donc ça devient un énorme problème.
Et les stand-up.
Pardon,
et les salles de stand-up.
C'est ça, ouais, ouais, les salles, voilà, bien sûr. Ouais, parce que ça, c'est rentable. Un comédien, deux comédiens, ça va. Après, ça va plus, quoi. Une fois que tu as payé, comme vous le disiez, quand tu payes le théâtre, tu payes un attaché de presse, tu payes le régisseur, tu payes la publicité, tu payes... Il reste rien.
Mais, absolument. Non, mais même la publicité, il faut faire de la publicité. Mais le coût de la publicité est énorme. Ça. Même si la publicité fonctionne et qu'on remplit la salle... Ça paye à peine la publicité. On remplit la salle pour payer ce qu'il a rempli, mais pas le spectacle.
Et pourquoi crois-tu que... On me dit pourquoi tu ne fais jamais de publicité au Théâtre du Nord-Est? Ben, c'est exactement pour ces raisons-là. Je ne fais pas de publicité parce qu'on paiera la publicité. Voilà, on n'est pas là pour payer la publicité.
Il fut un temps où il y avait dans le métro cette grande mosaïque où il y avait plein de pièces. Moi, j'adorais
C'était payant déjà.
Oui, c'était payant, bien sûr. C'était payant, mais... Pas cher.
Oui, enfin, quand
c'était,
même.
C'était, je me souviens, on payait 500 euros pour une semaine pour avoir l'affiche là-dedans. Maintenant, ça n'existe plus pour des questions de rentabilité ou après le Covid, il n'y avait plus assez. Enfin bon, bref, tout ça c'est, ils ont préféré arrêter. Et maintenant, les affiches dans le métro, c'est des emplacements qui coûtent 4000 euros les deux semaines.
Ouais, c'est ça.
Donc on ne peut plus. Donc maintenant, on ne peut plus.
Dans une salle de 70 places.
Sur 10 ou 15 stations seulement.
Oui, en plus.
Pas sur les 400 et quelques stations.
Alors nous, on a été désolés parce qu'on a. Ça marchait bien. On était contents de voir notre truc dans le métro. Ça, franchement, c'était pas mal. Donc on n'a plus ça. J'ai essayé j'ai payé un gars pour aller mettre des affiches dans des endroits dans la rue, mais des endroits en toute légalité avec... Suis fait aligner, pouf, 700 euros parce qu'il y a une équipe qui est venue retirer une affiche avec 4 scotchs qui était dans un endroit qui était autorisé en plus. 700 euros parce qu'ils ont retiré 4 scotchs.
Tu as payé les 700 euros ?
Ah, j'ai protesté, j'ai fini par...
parce que c'est fascinant, ça. la ville de Paris, qui ne donne pas de subvention, en plus, fait payer ce genre de choses.
Il n'y a pas d'endroit...
Nous, j'ai eu le même problème. Nous, on ne met pas d'affiches. Mais il suffit, et c'est arrivé, on nous a embêtés comme ça, il suffit qu'un spectateur prenne une affiche dans le théâtre et aille la mettre, par gentillesse et par générosité.
Et boum.
Et puis paf, on se retrouve avec. Et là, pour discuter de ça, pour essayer d'expliquer, ils s'en fichent complètement. Sans comprendre,
La dernière solution, on s'est dit, qu'est-ce qui reste ? Les colonnes Maurice, finalement, c'était finalement le moins cher, paradoxalement. 1500 euros la semaine. Ça fait beaucoup, mais il y a pas mal de colonnes Maurice, je ne sais plus combien il y en avait. Mais bon, c'est en grande dans Paris, et on s'est dit, on va voir ce que ça donne. Au moins, si on se rembourse nos 1500, ça... rien.
Ça n'a rien donné.
Ça n'a rien boosté du tout. Ouais. Alors peut-être des gens qui sont venus plus tard, mais ça n'a pas eu d'un seul coup le lendemain la salle comble parce qu'on avait les colonnes Maurice. Donc au niveau de la pub, on ne sait plus quoi faire. Si on veut mettre une pub dans Billet Réduc, ça, c'est une espèce de petite étiquette à 500 euros qui est noyée dans les autres. On l'a pas fait. Donc on ne sait plus quoi faire au niveau de la pub. Je ne sais plus.
Oui. C'est pour ça qu'on a cette.
Non, mais le problème que nous avons nous, enfin, je dirais sur les pièces et sur le petit théâtre également, c'est le temps de réactivité aussi bien des producteurs ou même des fois des journalistes, des critiques. C'est-à-dire que en général, une pièce. Nous la jouons au maximum 6, 7, 8 fois maximum. On ne peut pas la tenir plus longtemps. Après, on n'a plus personne. Sur 6, 7, 8 fois, on peut avoir du monde, ne serait-ce que par le réseau de la compagnie elle-même, et puis les amis, et puis les gens qui ont l'habitude de venir voir ce théâtre. Mais en 8 semaines, par exemple, un critique n'a pas le temps de réagir par rapport au nombre de sollicitations qu'il a. Alors, le temps qu'il réagisse, qu'il vienne voir la pièce n'est plus jouée.
C'est une des raisons pour lesquelles je ne vais quasiment jamais à l'Auguste Théâtre, alors que je devrais être quand même. Mais parce que les délais du jour. Moi, quand je donne un papier, il passe 3 semaines après. Voilà. Donc, il faut que le spectacle se joue au moins un mois. Sinon, je ne peux pas y aller et j'y vais pas. Donc, c'est tout simple.
C'est un gros problème aussi. Donc, même en termes de publicité, je dirais, indirecte, qui sont des interviews, qui sont. Voilà, des contacts qui intéressent tout le monde, parce qu'on vient faire aussi du spectacle quand on est interviewé. Eh bien, la réaction spectateur n'a pas le temps de fonctionner. Donc, le mieux, c'est faire comme tu fais. On ne fait pas de publicité non plus. On joue sur le réseau qui, petit à petit, on espère, s'agrandit. Et puis,
même pour les quotidiens, parce que les quotidiens, un journal comme Le Figaro, par exemple... les critiques du Figaro maintenant, quand ils voient un spectacle, ils peuvent leur papier peut passer 2 jours avant. Moi, quand mon père était critique de Figaro, il y a 60 ans de ça, il allait voir un spectacle, il faisait la critique, il y avait un coursier qui venait chercher son papier et le papier sortait le lendemain matin. Et c'était valable, il travaillait avec Gauthier, avec Jean Gauthier, et ça fonctionnait comme ça. Ce qui est quand même... aujourd'hui, même les quotidiens, c'est déjà 2 jours... Alors que si vous avez un programme qui se joue, une pièce qui se joue 6 fois, évidemment, ça devient un problème. On va arrêter un tout petit peu, parce qu'on est en train de parler de publicité. Et ici, cette radio aussi a besoin de publicité. Donc il y a un petit temps comme ça, pour essayer d'inciter nos auditeurs à donner quelques sous pour que cette radio, qui, je le rappelle, est une des seules radios vraiment libres, existe, il faut donner quelques sous. Et c'est ce qui va se passer avec ce qu'on appelle le Bobino, n'est-ce pas ?
Nos émissions, vos émissions viennent à vous. Un nouvel élan pour Radio Courtoisie. Politique, société, religion, littérature, histoire, culture. Sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Amazon Music... et sur notre site internet rc.fr et podcast.rc.fr.
Voilà, alors je rappelle que je suis ici en train de parler de théâtre, puisque c'est l'émission théâtre, avec Frédéric Sabrou, qui a sa pièce, on va rappeler Vincent
son mari et sa femme.
Et sa femme au théâtre Essayon. Tiens, tu peux peut-être donner le numéro de téléphone du théâtre Essayon. Si tu le trouves, si tu le trouves
si,
pas.
Si mes yeux acceptent de. Voilà, oui, bon. Bah je ne. Ah, non. Tiens, non.
Et en tout cas, alors l'adresse, au moins, comme ça.
6 rue Pierre au Lard.
Voilà, c'est en face de Beaubourg.
Toute petite rue. Voilà, côté tuyau, comme on disait tout à l'heure.
Voilà, et mon autre invité, qui est Gianni Corvi, qui est le directeur artistique de l'Auguste Théâtre. Paris, tu peux peut-être citer le...
Non, fantastique, l'Auguste Théâtre, mais simplement parce qu'il est à côté du métro Philippe Auguste.
Bien sûr.
Et donc, c'est à 100 mètres du métro.
Mais il a changé de nom d'abord, parce qu'avant ça s'appelait...
Il y a 40 ans, il est né sous le nom de Théâtre du Pavé, parce que la rue était pavée.
Ah, d'accord.
Et ensuite, il est devenu la Comédia, l'Utopia... Et finalement, l'Auguste Théâtre.
Ah d'accord, très bien. Et c'est Marie qui a changé le nom
Je crois qu'il a été changé juste avant.
Ah oui, d'accord,
par Pierre Delavaine, qui était... Qui
ah oui, oui, Pierre Delavaine.
Les cours Cochet Delavaine.
Oui, qui était le compagnon, enfin l'ami de Jean-Laurent Cochin.
Qui s'occupait. Marie a pris le bail de Pierre Delavaine, qui est resté dans nos murs en tant que... Que compagnie de cours, il donne des cours chez nous.
Ah oui, très bien. Et il continue à donner des cours.
Il va continuer encore, mais il a acheté maintenant. Malheureusement, il va nous quitter.
Ah.
Mais les cours Simon vont le remplacer.
Voilà, très bien.
Qui sont à côté de chez nous, d'ailleurs, qui sont rue de la Vaquerie, qui sont à côté du théâtre Auguste.
Ah d'accord.
Et là, maintenant, c'est devenu l'Auguste Théâtre. Mais j'aime bien ce titre.
C'est un très bon nom. Voilà, ça fait penser à Sinna, donc tout va bien.
Oui.
On est encore chez...
Et donc, nous sommes impasse Lamier, mais j'aime bien dire que nous sommes dans le quartier Mont-Louis, parce que, d'abord, j'aime bien ce mot, Mont-Louis. Mont-Louis. Et puis, le quartier Mont-Louis, c'est vraiment un petit quartier de Paris, vraiment très sympathique, hors circuit touristique, mais vraiment un quartier village encore... Avec des petits restos, mais également... C'est sympathique, voilà. J'aime bien ce petit lieu.
Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas faire Fort Chabrol à l'Auguste? Parce que, quelquefois, ça marche très bien. Il y a plusieurs cinémas qui ont été sauvés, comme ça.
Oui, on va essayer. On va essayer de
se battre jusqu'au bout, parce que... Il faut bien comprendre que ce n'est pas les mêmes logiques.
Non.
Tu vois, il y a une logique économique avec des gens et puis il y a une logique artistique. Et ce sont deux logiques qui s'affrontent et il ne faut pas que les financiers l'emportent sur les artistes. Ça, c'est très grave, quoi.
Non, forcément, on va finir par faire Fort Chabrol. Mais on essaie d'être...
Bah, bien sûr, d'être plus dans la légalité.
Dans la légalité, dans les normes de discussion, tout en comprenant les problèmes des uns et des autres. Mais... le seul moyen de le sauver, c'est que ça reste le théâtre.
Mais oui, bien sûr.
Et faut que les...
Mais je vois pas l'intérêt de cet homme qui...
L'argent.
Oui, mais enfin, bon, l'argent, d'après ce que j'ai compris, il a racheté tout l'immeuble.
C'est une ancienne usine.
Oui.
Il y a 40 ans.
Oui.
Qui a été divisée en deux. Une partie est restée usine artisanale de bijouterie, puisqu'ils font des bijoux de luxe, très joli travail d'ailleurs, et l'autre partie c'est le théâtre. Et au décès de l'ancien propriétaire, qui est une vieille dame qui est morte à 100 ans, les héritiers ont vendu, et donc ce marchand de biens a acheté l'ensemble. C'est sûr que 750 mètres carrés au sol, dans un endroit pareil, il a le droit de monter sur 3-4 étages, il multiplie par 100 la rentabilité.
Bien sûr.
Et c'est un argument.
Enfin, il y a d'autres immeubles, il y a d'autres appartements.
Nous sommes deux sociétés.
Ah d'accord.
C'est tout. Et donc avec dans les mêmes situations au niveau du ouais. du bail.
Alors. Et l'autre société, c'est quoi?
L'autre société, c'est une société artisanale et ça a été racheté par le groupe LVMH. Parce qu'il a fait partie des petites holdings. LVMH a acheté. Dans toute l'Europe, de nombreuses sociétés artisanales pour faire des œuvres d'art,
d'accord.
tout ce qui tourne autour de la mode.
Oui, donc pour eux, ce n'est pas un problème.
Pour eux, c'est un problème parce que le quartier est tellement typique parisien que lorsqu'ils amènent des clients, comme des Japonais ou comme des Américains qui viennent visiter, ils sont à Paris.
D'accord, donc vous êtes alliés ou...
On est alliés, mais bon, on est alliés. Ouais. Mais on ne sait pas, c'est tellement énorme, ce que nous avons ouais, partenaire est tellement énorme que nous n'avons pas vraiment de.
Est-ce que peut-être prendre contact avec le patron
L'idéal serait quoi? Enfin, l'idéal. Enfin, Monsieur Arnaud,
c'est pour ça.
Achète l'immeuble, financièrement, il fait une belle affaire, Il rachète au marchand de bière.
Puis surtout, vous êtes un type bien. Il s'intéresse à l'art. Donc
voilà. En plus, c'est une compagnie artistique. Nos voisins, qui appartient à l'UMH, c'est vraiment un statut artistique. Et il aurait une salle de spectacle qui pourrait servir de spectacle pendant 200 jours et d'événements Arnaud, LVMH, les autres 165 jours.
Il faut lancer cet appel.
Voilà, il faudrait lancer cet appel. Et alors, je l'ai lancé à la direction, mais le directeur de nos voisins directeurs ne sont que directeurs techniques. Mm-hmm. Je n'ai pas de contact avec la
direction. Oui, mais peut-être que ça vaut la peine d'essayer de prendre un contact avec eux.
On l'a essayé par avocats interposés. Pour l'instant, on n'a pas de retour. Alors il y a ça. Alors non, mais on va tout faire pour le sauver. Et puis on espère toujours aussi qu'au jugement, en appel, on comprenne la situation, que déjà le bail soit renouvelé. Mmh. Là, le marchand de biens n'aura plus qu'à éventuellement augmenter les loyers de façon, j'espère, raisonnable, et puis de poursuivre. Parce que nous avons, je vous dis, normalement, le lieu ne peut pas être autre chose qu'une salle de spectacle, par la loi.
Oui, oui.
Voilà.
Oui.
Pratiquement. Mais s'il le ferme et qu'il attend le nouveau client pour reprendre à des prix, voilà, il va le faire mourir. Ouais. On ne peut pas payer plus cher que nos 80 places. Enfin, c'est mécaniquement. Et même 80 places, voilà. Donc on en est là. Alors effectivement, on a déjà fait une petite manifestation avec les voisins. Les voisins nous supportent. Nous supportent comme supporters.
Malheureusement, de temps en temps, ils ont du mal à nous supporter, les voisins.
Ils sont très sympathiques parce que bon, il y a plein de jeunes qui sont dans cette impasse.
Ah oui,
ça donne de l'animation. Non, vraiment, on est soutenus par nos voisins. Mais voilà, et puis j'espère que la nouvelle mairie va faire elle aussi un gros effort, je dirais, c'est un problème politique.
Oui, bien sûr.
Parce que, je dirais, on ne demande même pas d'argent, mm-hmm. puisque de la façon...
Oui, bien sûr, j'ai cru comment que tu arrives à équilibrer les comptes.
On équilibre les comptes, on a payé toutes les charges, tout est équilibré, on ne gagne pas d'argent, mais tout est équilibré. Oui.
Parce qu'il faut rappeler que tu n'es même pas payé
je n'en ai pas le dire.
Non,
fait 5 ans que je dirige un théâtre où je travaille 18 heures par jour sans être payé. Ouais. C'est évident, parce que sinon, c'est pas possible.
Je sais bien, mais il faut le rappeler, ça, à nos auditeurs, pour qu'ils se rendent compte de la situation.
J'ai une pudeur parce que je dis faut pas attrister. Le spectateur doit venir s'amuser. Je suis retraité, autant que la société en profite aussi de cette retraite.
Mais c'est exactement ça.
C'est fait pour ça aussi.
Non, mais il y a deux choses différentes. C'est-à-dire que là, il ne s'agit pas de pleurnicher. Il s'agit simplement de dire que là, il y a un instrument formidable et que cet instrument peut disparaître. Voilà, c'est tout. Et puis, il ne s'agit pas d'aller de le dire avant qu'un spectacle commence ou après un spectacle, en allant pleurnicher, alors que les gens doivent rester sur l'émotion d'un spectacle.
Absolument,
et leur dire, vous savez, ce théâtre va disparaître et les gens, ils vont partir la queue basse. Mais là, on est à la radio, c'est tout à fait légitime. Mais c'est fait pour ça aussi, de dire, d'appeler les pouvoirs publics, d'appeler les gens qui peuvent mettre...
Les gens qui sortent de l'Auguste sont heureux. Ah, parce que tu parles de spectacle, on aime le côté spectacle aussi. Même si on fait un texte, entre guillemets, difficile, même si on pleure, mais le fait de pleurer dans une salle,
c'est
un spectacle.
Bien sûr.
On provoque l'émotion. Je n'ai pas entendu un seul spectateur sortir de chez nous, quel que soit le type de pièce, en disant c'est pas bon, c'est pas vrai.
Ça peut arriver.
Ça peut arriver, mais là vraiment.
Tu n'es pas comme chez moi. Moi, je dis que dans mon théâtre, il y a les meilleurs spectacles de Paris et les plus mauvais. Tu vois. J'en ai la preuve concrète. Nous, on vient de sauver le théâtre. C'était l'année dernière. On a fait une souscription qui avait rapporté 150 000 euros avec le public. Ouais. Les gens, ils tiennent à leur théâtre. Et c'est quelque chose d'essentiel. Quand les pouvoirs publics ne sont plus là, il y a des privés des gens et qui savent à quoi ça sert. Simplement, c'est qu'on aimerait bien que nos hommes politiques prennent conscience de l'essentialité du théâtre dans la cité.
Absolument, mais...
Le lieu qui montre l'homme à l'homme, il n'y en a pas tellement, quoi. Je veux dire que c'est pas... Parce que tu parlais du cinéma tout à l'heure. Le cinéma, on consomme. Là, ça se fait dans le vivant, un vivant face au vivant. Je le redisais encore hier. C'est ça qui est essentiel. C'est ça qui il faut que les politiques se rendent compte de ça. Et puis des formes de théâtre aussi, parce que tous les théâtres... Je sais que Terziev disait il y a 25 formes de théâtre, bon, mais il y en a quand même qu'une vraiment qui est essentielle, c'est le théâtre incarné, quoi. Donc là, voilà. Et maintenant, aujourd'hui, on voit plus, je vois quasiment plus de théâtre. Moi, je vois que des spectacles. Je vois des choses qui sont voilà, avec maintenant des projections partout. Tu peux plus voir au théâtre sans que t'aies 50 projections, machin, des trucs où on travaille les entrées, les sorties aux dépens de la psychologie, de la vérité. Voilà, tout, c'est ça le théâtre d'aujourd'hui. Hein, beaucoup, enfin, ce qu'on appelle le théâtre et qui est du spectacle, mais des vraies pièces de théâtre. Hein, oui. Ben, il y en a vraiment très très peu, hein, comme la tienne, il y en a très peu. Un auteur merci. Qui écrit des pièces, voilà, avec des personnages, voilà, mais il y en a très très peu, quoi. Oui. Et ce qu'on disait tout à l'heure, qu'ils arrivent à se faire jouer, c'est de plus en plus compliqué. Alors, comment tu vois l'avenir, donc, après ça, pour ton spectacle ?
Ben, on va finir le 25 juillet, et on aura fini le 25 juillet, je pense.
D'accord.
Et puis, à moins que, bon, il y a quelques directeurs de festival qui sont passés quand même, alors j'attends de voir si ils vont nous prendre, mais probablement, on arrêtera la pièce, et puis je vais passer à autre chose, je vais essayer d'en faire une autre. Ça fait un an qu'on la joue, déjà.
Ouais.
On a pas mal joué, on a pas loin de 2000 spectateurs quand même.
Ah bah voilà,
c'est pas si mal.
Ah oui, bah c'est bien.
Mais bon, voilà, ça engloutit, comme on disait tout à l'heure, pas mal d'argent.
Tu peux continuer
d'argent,
à payer
bon.
Ton loyer personnel, ça va.
Non, bah oui, ça va, j'ai la chance d'être propriétaire, donc ça va.
Ah bah c'est
et
bon,
je
ça.
Suis un joyeux retraité comme vous-même, donc voilà. Oui, après, bah, je vais sûrement
écrire une autre pièce,
oui, mais voilà, sinon, oui. Je trouve du temps parce que j'écris beaucoup de dessins animés pour la télévision en ce moment, et puis des livres pour enfants aussi, ça m'amuse beaucoup. Ça
oui. Le monstre de Morphès.
Le monstre de Morphès, ah, oui, chez Didier.
Je connais mes classiques, hein. Je ne connais pas que Dostoïevski, je connais aussi les bandes dessinées de Frédéric Saboud.
Un énorme succès, oui, un album qui a beaucoup de succès auprès des enfants, le monstre de Morphès.
Oui, c'est publié chez qui ?
Chez Didier Édition.
Ah, très bien.
Il y a un deuxième tome qui va sortir, et j'ai plusieurs autres livres. Ça, c'est un domaine qui m'amuse énormément, un domaine de liberté, moi qui suis passé sous les fourches codines de la télévision pendant 35 ans, là, le théâtre et tout ce qui est jeunesse, même les dessins animés, même si c'est un petit peu très technique et très compliqué, très pointu, c'est quand même des espaces où on a droit à l'humour, l'imaginaire, ça c'est...
Ouais, faut le rappeler ça, c'est-à-dire que le théâtre est un espace de liberté. Ce que tu dis de la télévision, je l'entends tout le temps. Maintenant, la censure, c'est plus que de la censure, c'est de l'auto-censure permanente, quoi.
Ah oui, on s'auto-censure là, à la télé, bien sûr.
C'est absolument terrifiant. On peut plus dire un truc, on peut plus. Ils éliminent en plus maintenant de plus en plus toutes les émissions en direct de peur, qui est un dérapage, voilà. Et des lieux de liberté, comme ici. Hein. Ici, moi, je peux lire de tout ce que je veux. Hein. Je peux parler d'un spectacle d'extrême gauche ou d'extrême droite. On ne m'a jamais censuré en rien et pas un mot, pas un truc, quoi. Bon, voilà. Alors, évidemment, on ne va pas se mettre à inventer des choses qui ne doivent pas être vantées. Ce n'est pas le problème. Mais les espaces de liberté, ça se restreint de plus en plus à cause de cette autocensure. Et la télévision, ça devient extrêmement... Tu as quelques anecdotes d'ailleurs sur des trucs qu'on t'a censuré pour des choses aberrantes, quoi.
Oh, des quantités pendant des années, oui. Enfin bon, j'écris beaucoup de fiction, fiction vivante, live avec des comédiens. On est dans un cadre où on sait, il y a des règles. On sait par exemple que ça ne veut pas être un héros, mais une femme, une héroïne.
Ah
il faut que le public puisse s'identifier. Il faut qu'on passe par des. Voilà, c'est.
Oui, c'est c'est les nouvelles règles, quoi. Là, il faut qu'il y ait des femmes, il faut qu'il y ait des.
Il y a plein de règles.
Comment ils appellent ça,
si je commence à vous décrire ça, ça va être très long. Mais par exemple, truc qui m'a beaucoup amusé, c'est un dessin animé sur Netflix. C'est d'après une bande dessinée d'Émile Bravo. Qui s'appelait les 7 ours nains. Alors déjà, le mot nain a disparu. C'est les 7 petits ours parce que c'est une coproduction avec effectivement Netflix et les Américains. Et on est passé là, c'est la première fois de ma vie que je me retrouve avec des sensitivity readers.
Non, attends, là, parle-moi. tu sais que je suis un anglophobe convaincu.
Il n'y a pas l'équivalent, il n'y a pas de traduction. C'est-à-dire que ce sont des gens qui relisent le scénario de façon à voir si on ne va offenser personne.
Ah.
Et il y a toujours un moment ou un autre où on ne se rend pas compte, mais on est en train d'offenser quelqu'un.
Ah, évidemment, alors, par définition, c'est même normalement ce que, à quoi sert l'art aussi.
Alors, mais les sept ours, c'est dommage pour Émile Bravo, parce que sa série était vraiment très drôle. C'était que des parodies des contes qui ont bercé notre enfance. Mais quand on va là-dedans, effectivement, il y a que des trucs qu'on doit interdire aujourd'hui.
Non, on ne pouvait pas faire de lancer de nains, ça serait impossible.
Pas de lancer de nains, par exemple, une princesse. On nous a dit, ben non, les princesses, c'est, il faut penser aux petites filles qui se trouvent pas jolies. Alors, si on retire les princesses, on les fait comment? Alors, il a fallu tourner les princesses autrement.
Et ça a été comme ça, sans arrêt?
Ah oui, ça a été, mais un nombre de trucs, je me souviens pas de tout, mais le truc le plus drôle, c'est qu'à un moment donné, on avait imaginé une histoire où le prince, il avait toujours un doudou avec lui, un petit ours, et il perd son doudou dans la forêt. Et les autres, les ours qui ne sont pas nains, mais qui sont des ours de petite taille, on va dire, arrivent dans la forêt et le trouvent. Ils commencent à lui parler. « Bonjour toi, comment tu t'appelles toi ? Hein ? Hein ? Hein ? Ouh ? » Et puis, « Hein ? Ouh ? Ben moi, je m'appelle comme ça, ça c'est mes copains. Et toi, comment tu t'appelles toi ?» Et l'autre, il répondait pas. Et donc, on s'est retrouvé avec une note. Vous vous moquez des sourds et des malentendants. Voilà. Et des comme ça, on en est. Et ça, j'ai Netflix, je regarde les trucs, parce qu'on a Netflix, je regarde les trucs, je me dis, ils sont passés par toutes ces grilles de lecture, les scénaristes, mais comment ils font, quoi? C'est terrible. Et bon, et c'est, alors ce qui est intéressant, ça serait on pourrait vraiment beaucoup en parler, c'est qu'en fait cette woke culture est en train d'éteindre sur la jeunesse actuellement. Là, j'ai par exemple j'écris des sketchs. Il y a l'audition d'Olivier Belmondo qui sera aux têtes des Mathurins lundi, et ils ont pris que des sketchs à moi. Et j'ai un sketch. À la fin, ils m'ont fait modifier la fin parce que voilà, ils ont des espèces de remarques woke culture.
Et la raison, parce que
alors c'était quoi la fin du sketch? Bon, je ne sais plus, mais j'ai dû le modifier.
C'est un gros problème. Mais tu sais, moi je raconte souvent cette histoire-là. Quand je faisais des tournées, j'avais fait une tournée en Amérique du Sud. On était au moment des colonels, donc c'était en Uruguay. Et donc, on arrive, c'était une pièce d'Eric Satie. Donc, bon, il y avait un bureau de la censure, donc j'arrive, il y avait un metteur en scène uruguayen qui était avec moi, pour traduire. Donc, le gars lit, il y a un type qui parlait français, de la censure, bon, et puis il lit chaque page devant moi, et il met un cachet sur là, pour montrer qu'il a lu chaque page du texte qui allait être présenté donc, à Montevideo. Et alors, donc, je regarde ça avec d'une manière un peu effrayée, comme ça, en me disant quand même, c'est pas possible. Bon, très bien. Je sors, et puis je dis au metteur en scène uruguayen, je lui dis, mais comment vous pouvez supporter ça? C'est pas possible. Et il me regarde en souriant, et me dit, mais monsieur, la censure, c'est rien. Le drame, c'est l'auto-censure.
Ah, oui.
Et il avait raison. Et ça m'a servi de leçon. C'est l'auto-censure. C'est quand, parce que la censure, on peut toujours le, voilà.
Bien sûr.
Tu vois, par exemple, l'autre jour, j'ai vu Antigone. Bon, Antigone, ça a été créé pendant l'occupation. Bon, il y a une censure allemande qui était là. Hein. Bon, voilà. Donc on peut. Alors, la censure allemande, qu'est-ce qu'elle voit? Elle voit Créon. C'est tout. La résistance, elle va voir Antigone. Mais Anouilh a été assez malin, et heureusement assez intelligent, pour donner raison aussi à Créon. Bon, donc finalement, c'est passé. Donc, on arrive toujours à trouver un moyen, mais l'autocensure, non. Quand on commence à se dire, mon Dieu, ah non, je ne peux pas faire ça parce que ça va être censuré, ou parce que ça ne passera pas, alors là, ça ne va plus, quoi. Et on rentre dans un système qui devient de plus en plus dangereux, quoi. Voilà. Quel est ton parcours de Jenny alors
Justement, on parlait de dessin animé.
Voilà.
Je suis passé par le dessin animé aussi.
Oui.
Ah bon?
C'était dans les années 84-85, il y avait à la télévision française envahi par le dessin animé japonais.
Oui.
Parce que c'était facile, ils achetaient les séries qui marchaient, qui avaient 10, 15, 20 ans.
Dans les émissions de Dorothée.
La culture a dit, il faut quand même qu'on pourrait produire, d'autant plus que le dessin animé, à l'époque, il n'y avait pas encore d'ordinateur, ça emploie du monde. C'était facilement 100, 200 personnes dans un studio. Et donc, comme moi j'avais fait un peu de dessin animé par ailleurs, et c'est tombé sur moi, et je me suis retrouvé à la direction technique d'Angoulême, d'Image Ordinateur, qui était dirigée à l'époque avec comme patron Olivier Barraud. Et donc, nous avions lancé des dessins animés à Angoulême.
Olivier Barraud, c'est le comédien
La personne qui critiquait la critique de livre.
Ah d'accord, il a écrit
pas mal de biographies.
Ah, oui, je vois, oui, très bien. Ouais,
ouais. Il a une émission qui s'appelait 5 minutes, un livre.
Oui, oui.
Etc.
D'accord. Ouais.
Et donc, qui avait monté l'opération, lui en tant que patron de l'opération, et moi, il m'avait engagé comme directeur technique, parce que je connaissais un peu le boulot. Et c'était très intéressant, donc j'ai fait pendant plusieurs années, j'ai travaillé donc, dans le dessin animé au studio d'Angoulême, mais à la limite, on ne pouvait pas tout faire, parce qu'une partie partait quand même en Corée, en exécution, pour des problèmes de coûts. Mais on a quand même réalisé un certain nombre de séries, donc j'ai fait du dessin animé, j'ai fait de la réalisation télévision, des émissions à la fois du direct, quelques fictions qui n'ont pas laissé des grandes mémoires. Et donc j'ai pas arrêté de travailler, quoi, mais surtout dans l'audiovisuel. Et tout au début, j'ai démarré comme mes premiers stages, c'était à l'Opéra de Paris, à l'Opéra de Garnier. C'est lorsqu'on a réouvert en 72 l'Opéra Garnier, parce qu'il avait été fermé pendant plusieurs années. Donc on est sous Pompidou, ça fait vraiment très ancien là. et on nomme Lieberman comme directeur. Oui. Et il crée l'école, l'Opéra Studio. Il crée l'école et il invite les plus grands metteurs en scène. Et j'ai eu la chance d'apprendre mon métier avec les plus grands metteurs en scène de spectacles d'opéra.
Donc, et alors le théâtre dans tout ça, parce que
Ben, le théâtre, c'était d'abord.
Parce que moi je t'ai connu comme.
Oui, mais c'était en fait. Tu m'as connu au théâtre parce que je suis revenu au théâtre parce qu'à un moment donné, je me suis dit que c'est peut-être un espace de plus de liberté que la télévision.
Ouais.
Et donc, voilà, je suis arrivé au théâtre.
Oui, on retombe sur nos pattes. Voilà, c'est une bonne émission.
Je suis en gros en pré-retraite. Il y a ça dans pas mal de temps. Et donc, je vais en profiter pour faire ça. J'ai plus besoin de gagner de l'argent. Je vais essayer de pas me ruiner. et puis voilà, donc je suis venu chez toi.
Ben oui.
Il y a maintenant presque un peu plus de 20 ans.
Qu'est-ce que tu avais monté déjà, je me
souviens. Strindberg.
Ah oui, c'était
quelle pièce? La saison Strindberg, donc j'ai monté Hors la loi et à Bois maternel, donc deux Strindberg. Voilà, avec au départ. Et que,
oui, voilà. Ça me rappelle une anecdote, parce qu'on a eu à ce moment-là un problème, là encore, un problème d'argent terrible, et puis on était au tribunal, et le juge me regarde les comptes, et puis il me dit mais monsieur, je ne comprends pas, comment se fait-il que d'une année à l'autre, les recettes ont chuté? Alors je lui dis, c'est simple, c'est parce que l'année dernière on a fait une intégrale Molière et puis là cette année on fait une intégrale Strindberg. Et le juge me dit, qui ça? Je lui dis, voilà, vous avez compris.
Voilà, ouais. Et voilà, donc je suis revenu.
Donc c'était quelle pièce de Strindberg déjà?
Moi j'avais monté Hors la loi, qui était la première pièce de Strindberg.
Ah oui, c'est ça, voilà.
Et c'est une pièce qu'il avait écrite à l'âge de 22 ans, qui était... Une très belle histoire d'ailleurs, c'était le retour de croisade de la jeune génération qui revenait donc en Suède et qui essayait de s'imposer face à l'ancienne génération qui était encore sur Odin. Voilà, et donc il y avait ce combat entre à la fois générationnel et culturel. C'est écrit par Strindberg avec conflit de génération, mais également un apport d'idées. Non, c'est très intéressant. Et voilà, j'ai monté ça sur une forme un peu Mad Max, parce que c'était un peu ça. Voilà. Et puis l'autre, c'était Amour maternel, qui est une petite pièce en fait de femme sur l'histoire de deux sœurs qui se connaissent pas, qui se rencontrent dans une zone de thermalisme.
Et ensuite, donc, tu as fait connaissance avec Marie, comment ça s'est
passé? Alors, j'ai continué j'ai monté d'autres pièces, j'ai écrit des pièces et j'ai monté des petites pièces à gauche, à droite, en cherchant des salles un peu partout. Et en fait, c'est Guillaume Tavy qui jouait dans le Strindberg, avec qui on avait vraiment sympathisé, il fallait qu'on fasse quelque chose ensemble, et qui m'a dit, tiens, il y a Marie, que je connaissais pas, vraiment, Marie, l'administration,
elle commence à vaciller un peu, parce que
elle peut plus jouer, elle a plus le temps, ça lui prend trop de temps, et peut-être qu'on pourrait voir ce qu'on pourrait faire ensemble. Et donc, j'ai rencontré Marias, j'étais surpris parce qu'elle était bien heureuse finalement d'avoir quelqu'un qui est assez fou pour reprendre les manettes, au moins administratives.
Elle connaissait la chose, c'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà. Et donc, c'est comme ça que je suis venu à l'Auguste.
Puis maintenant, comme elle a aussi une dirige une maison d'édition en Suisse, Métropolis, faut le rappeler, très belle maison d'édition où elle publie des choses formidables.
Voilà. Et donc j'ai monté un Don Juan, j'ai monté un Ursenard, j'ai monté mais dans l'Auguste, et j'ai monté des pièces comme ça qui me plaisaient. J'étais totalement libre parce que j'étais à la fois directeur, je montais ce que je voulais et tranquillement, et puis voilà, et puis il fallait s'occuper de tout le reste parce que mes pièces ne suffisaient pas pour alimenter l'ensemble de la production. Voilà. C'est comme ça que je suis revenu, en fait, à un amour de jeunesse, hein, parce qu'on aime le théâtre, on a 15-16 ans, et puis après, c'est comme les joueurs de foot, après, il faut vivre.
Ben oui, bien sûr.
Et il y a eu ce passage. Et donc, mes premières pièces, c'était la paroisse, hein, c'était la salle paroissiale où on montait des pièces.
Ah oui, mais faut bien débuter.
Faut bien débuter. Et c'est ça qui imprègne. Ça imprègne, y compris les grandes messes d'ailleurs. Quand on est enfant de cœur dans une grande messe, on est imprégné par le...
Et tu es comédien aussi
Non, je ne suis pas comédien. Ouais. Je suis vraiment à la fois la technique pour la réalisation vidéo et en fait, ça serait vraiment la mise en scène, vraiment ce qu'on appelle la scénographie. C'est-à-dire que je ne dirige pas les comédiens sur le ton qu'ils doivent prendre. Je leur dis, donnez-moi quelque chose, mais je mets en scène comme un tableau. Mmh. Mon travail, c'est... Enfin, mon esprit est plutôt dans ce sens-là.
D'accord. Parce que, toi, Frédéric, c'est pareil, parce que tu as débuté comme... avec les cours dramatiques, tu parlais de Périmonie tout à l'heure, du cours Périmonie, qui était un des grands cours, toujours d'ailleurs, mais Périmonie est mort, Péri est mort.
Il est mort.
Et donc, au départ, tu étais comédien, mais Mais tu ne joues plus du tout.
Non. Moi, au départ, j'étais dessinateur. J'ai fait les arts appliqués. Après, j'ai fait de la musique, j'ai écrit des chansons, et puis je suis rentré dans ce cours Périmonie, qu'est-ce qui a changé ma vie, mais en 5 secondes, j'étais là, pouf, j'ai découvert quelque chose, Et donc, j'ai fait les 3 ans chez Périmonie, j'ai eu un premier prix, et il y avait aussi une audition qui s'appelait, les 10 minutes à vous. On avait l'occasion de faire 10 minutes, mais de création, il fallait pas que ce soit pris dans le répertoire, au théâtre de l'Atelier. Et j'ai créé un truc très onirique avec des musiques, des choses, voilà. Et ça a tellement bien marché, ce truc-là, qu'après, Périmonie m'a dit, au moment des comptes rendus, toi, Sabrou, il faut que tu écrives. Et j'ai jamais arrêté d'écrire depuis ce moment-là. C'est lui qui m'a... J'aurais osé, moi, j'étais timide, j'ai des petites chansons, ça allait, mais écrire pour le théâtre... Puis finalement, voilà, ça s'est fait. C'est un plaisir extraordinaire.
C'est l'occasion de rendre un hommage à Jean Périmonie, qui était un très bon professeur et un vrai chrétien. Pour moi, c'est important.
Oui, un professeur formidable. Oui,
c'était.
On lui doit beaucoup. Je lui dois ma rencontre avec Isabelle Etier, d'ailleurs, qui joue dans la pièce.
ça c'est très bien.
Voilà.
Une excellente comédienne.
J'ai l'usage de dire qu'elle a un premier rôle dans ma vie.
Oui. Nous n'en dirons pas plus.
Voilà.
Parce que, voilà. Là, on va bientôt, je crois qu'il nous reste encore 10 minutes à peu près. Et on me fait signe. 6 minutes, oh là là, 7 minutes. Donc, c'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de ce que vous avez vu au théâtre, parce que est-ce que vous allez au théâtre voir d'autres choses? Parce que je termine toujours les émissions comme ça pour donner envie d'un spectacle qu'on a aimé et qui.
Moi personnellement, je vois surtout les pièces qui se passent à l'Auguste parce que j'y passe beaucoup de temps. Donc, effectivement.
Alors, par exemple, à l'Auguste, est-ce qu'il y a un spectacle là que tu pourrais nous recommander?
Celui que je peux recommander est déjà fini, est déjà
passé. D'accord, mais un qui va commencer peut-être.
Non, parce que là, on est en fin de saison et je dirais que ce sont des spectacles scolaires. Et donc,
D'accord. Bon, et là, vous vous arrêtez en juillet-août?
On va s'arrêter fin juin, là, dans 15 jours.
Ah oui, d'accord. Et ça reprend en septembre, le théâtre?
On va reprendre en septembre.
Ah oui, d'accord. Voilà.
Donc, je ne peux pas conseiller correctement une pièce.
Parce que moi, le théâtre du Noroît, c'est ouvert l'été tout le temps, quoi.
Non, j'espère monter. Alors, j'espère monter personnellement à Misanthrope pour la rentrée.
Ah, bah, écoute,
voilà. Donc,
c'est la pièce que j'ai le plus montée, moi. Donc,
voilà. Donc, ça, c'est. Mais je pense qu'on va le faire pendant les vacances. On va faire les répétitions.
Vous allez répéter, bien sûr, parce qu'on oublie aussi qu'il faut travailler en amont au théâtre.
Ça passe simplement lorsqu'on présente.
Et toi, Frédéric, est-ce que tu as vu un spectacle que tu pourrais conseiller? Parce que c'est...
Oui, j'ai vu Nord-Ouest.
Il y a des bons spectacles au Nord-Ouest, tu peux les recommander.
Non, j'ai vu au Rond-Point un spectacle, le titre est comme Akram, je sais pas, c'est un...
Au théâtre du Rond-Point?
Oui, au Rond-Point, une espèce de très grand panneau vertical avec des personnages qui tombent, qui montent, le titre est très compliqué, je ne me rappelle plus. Sinon, je peux recommander un film formidable qui s'appelle La Vénus électrique.
Ah.
Ça, c'est vraiment un des meilleurs films que j'ai vu depuis longtemps, qui est un film français, n'est-ce pas Jean-Luc? Voilà.
Tu vas un petit peu au théâtre quand même de temps en temps quand même.
Oui, bien sûr, on va surtout voir des amis.
Oui,
pas se mentir.
Mais pas c'est important. Ouais.
Je vais recommander un petit peu les efforts de mon copain Attilio, comédie italienne aussi.
Oh, voilà. Ah.
Avec qui j'ai beaucoup travaillé puisqu'on se connaît depuis 50 ans.
Je sais, oui.
Et bon.
Attilio, je l'ai eu au téléphone il y a 8 jours. Là, il était encore parce que on parlait des gens qui pleurent, ils pleurent beaucoup, et souvent avec raison d'ailleurs, parce que c'est un type hyper courageux, il a quand même jeté sa voiture sur les grilles de l'Élysée, pour essayer d'avoir des subventions et qu'on sauve son théâtre. Son théâtre là, est sauvé, hein. C'est Vincent Bolloré qui l'a aidé, son théâtre là maintenant est sauvé, ça c'est très bien. Le problème c'est qu'il il venait de faire un spectacle et qui a été là encore censuré. Donc c'est ce qu'il m'a raconté, parce que je devais y aller et puis je lui ai dit, je l'appelle pour lui dire, bon écoute je vais y aller. Et puis il me dit, bah non le spectacle s'arrête. Je lui ai dit, mais pourquoi? Parce que il m'explique, ça a été censuré, donc... Je ne sais plus exactement pour quelle raison, mais enfin bon, voilà, on parlait de la censure. Mais il fait un beau travail. Le problème, c'est qu'il fait souvent des spectacles qui se ressemblent. Il fait toujours un peu pareil. C'est un peu dommage, quoi. Mais c'est un vrai passionné, voilà. Puis un personnage avec ses qualités et ses défauts qu'on connaît bien, mais qui voilà. Mais au moins, il y a autant de passion théâtrale. Et puis il a tenu ce lieu qui est très 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 joli, quoi, d'une manière assez formidable. Moi j'ai vu un bon spectacle, parce que l'autre jour il y avait un spectateur, que je faisais la caisse au Théâtre du Nord-Ouest, il y a un spectateur qui vient et qui me dit, voilà, moi, vous savez, je suis un grand lecteur de Valeurs Actuelles, et puis je vois que vous ne faites que des éreintements, que vous dites du mal de tous les spectacles. Alors je suis venu pour vérifier ce que vous faites. Donc, réputation de faire que des mauvaises critiques. Et donc là, j'ai vu un bon spectacle, j'en parlerai d'ailleurs, parce que ça va se jouer en Avignon, qui est le premier homme, hein, au Théâtre de la Reine Blanche. On a fait l'autre jour, l'émission du mois dernier, on l'a fait justement avec la directrice de la Reine Blanche, qui est une femme absolument merveilleuse, qui s'appelle Elisabeth Bouchot. Une scientifique qui a consacré aussi là toute sa vie et tout son argent, tous ses moyens au théâtre. Voilà. Et elle se ruine avec ce théâtre. c'est quelqu'un d'assez formidable. Et le lieu est très bien. Il y a deux salles, la Reine Blanche, je ne sais pas si vous connaissez. Il y a deux salles, oui, c'est vraiment très bien. Et donc là, ils ont fait une adaptation. On en a parlé le mois dernier, mais je ne l'avais pas vu. Tandis que là, je l'ai vu, je peux en parler. Qui s'appelle Le Premier Homme. Le Premier Homme, c'est un texte, c'est une adaptation à partir de l'œuvre de Camus. Et c'est très, très, très bien fait. Très bien joué. Alors, on va dire que c'est du copinage, parce qu'il y a mon vieil ami Emmanuel de Chartres qui joue dedans et qui est vraiment très très bien. Il y a Jean Alibert qui est excellent, il y a Félicien Jutner qui joue Camus qui est très bien, et puis Elisabeth Bouchot que j'ai trouvé absolument mais merveilleuse dans le rôle. C'est très bien fait, là aussi, bon, c'est pas... Moi, j'y allais à reculons, hein, c'est pour ça que je les avais convoqués ici, parce que comme je les aime bien... pour en parler avant d'avoir vu le spectacle, en me disant « Ouh là là, on ne sait jamais ce qui va arriver ». Donc, les machins sur Camus, on ne voit plus que ça, et à partir de textes littéraires, ça devient absolument insupportable. Donc, je m'attendais au pire, et j'ai vu un spectacle touchant, émouvant, là aussi, avec des projections, comme on en voit, mais bien fait, bien... Voilà, c'était... J'ai passé un très 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 bon moment, et le spectacle va se jouer en Avignon, donc... Je ne sais plus dans quel théâtre, mais enfin bon, évidemment en off, au théâtre, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y a le in et le off, et là ça sera évidemment dans le off, et je vous conseille vraiment d'aller voir ça. Voilà, je ne sais pas s'il nous reste encore quelques secondes, il nous reste 20 secondes, est-ce que vous avez quelque chose de définitif à dire, à part d'aller au théâtre, d'aimer le théâtre, de la passion du théâtre, voilà, le théâtre, voilà. le théâtre.
On est bien d'accord.
Bon. Vous serez toujours bien accueillis. Et je pense que vous ennuierez jamais au théâtre.
Ça, c'est sûr. C'est dire vite. Hein. Moi, ma fille ne veut plus aller au théâtre avec moi. Elle s'est tellement ennuyée. Non. On s'ennuie beaucoup au théâtre, malheureusement. Oui, mais enfin, quand c'est réussi, c'est la chose la plus extraordinaire du monde. Eh bien, merci. Et puis,
merci à vous.
Voilà, le mois prochain, ça ne sera pas en direct, mais pour l'émission de juillet et de août. Mais on reprendra en septembre en direct. Voilà. Eh bien, merci, bonne soirée à tous, et bon théâtre à tous.
Vous venez d'entendre le Libre Journal du Théâtre dirigé par Jean-Luc Génère, diffusé en direct sur Radio Courtoisie le 12 juin 2026, de midi à 13h30, réalisé par Axel. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.rc.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5€ par an. Si vous le désirez, nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce livre journal. Commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9€ ou 6€ seulement si vous êtes adhérent de notre association. Je vous rappelle notre adresse, Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016, Paris.